Les conférences du THSF. Bienvenue à tout le monde. Voilà, Olivier Richard qui vient de Grenoble, qui va nous présenter un retour d'expérience sur le Fab Lab R.
Bonjour à tous. En premier lieu, je tenais à remercier le THSF et toute son équipe pour m'avoir retenu pour faire cette présentation et m'avoir invité. On a pris déjà un peu de retard. Moi, ça me dérange jamais. J'aime bien quand mes exposés ont des contraintes temporelles. Ça me permet de moins parler. Donc, au lieu de faire trois quarts d'heure plus un quart d'heure, on va faire trois quarts d'heure. N'hésitez pas à poser des questions pendant l'exposé. Je ne connais pas trop bien le public. Je n'ai pas cette habitude-là. Je pense qu'on est un public varié avec des gens qui vont être très hackers, très techniques, et puis d'autres qui sont sans doute venus ici pour savoir ce qu'était une Fab Lab. Pour les questions, il faudra faire comme moi, parler dans le micro. C'est pas super agréable pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais c'est parce qu'ils font du streaming, blablabla. Donc, on est obligé de se trimballer avec ça. Donc, je vais assez vite rentrer dans le vif du sujet. Donc, Olivier Richard, je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs que je vais rapidement présenter juste après. J'ai mis dans le titre notre expérience de ce qu'est une Fab Lab. Et puis, le thème de ce festival, c'est re. Donc là, c'est le réenseignement. C'est en gros, quelque part, la philosophie, on va dire, Fab Lab, qu'est-ce que ça pourrait faire sur les enseignements. Donc le plan, qui dure bien plus de trois quarts d'heure, voire bien plus d'une heure, donc ça ne va pas être celui-là. En gros, on va survoler un peu l'historique. Je vais parler de projets et de l'impact donc des enseignements, l'importance des partenariats qu'on peut avoir, et puis aussi le fait que les Fab Labs, c'est à la mode, donc ça offre plein de possibilités. Alors, rapidement, Polytech Grenoble, donc c'est l'école d'ingénieurs où je professe, ça fait partie d'un réseau d'écoles rattachées aux universités. La plupart des universités ont des écoles d'ingénieurs. Donc le réseau Polytech, c'est le réseau le plus important, avec 13 écoles universitaires participantes sur tout le territoire. Donc plein de spécialités scientifiques, beaucoup de diplômés. C'est à peu près le tiers des ingénieurs formés en France. Donc on a un public d'étudiants qui vient des DUT pour un tiers, prépa un tiers et aussi les licences L2. Donc là on est en enseignement supérieur. L'école à proprement dite à Grenoble, c'est 7 filières. Vous m'excuserez pour les fautes de français, il y en a un peu partout, désolé. Mais bon. Sur les 7 filières, on a donc géotechnique, matériaux, prévention des risques. Donc ça, c'est celle que je connais le moins, c'est pas ma spécialité. Moi, je suis informaticien d'un point de vue recherche et enseignement. On a ensuite informatique industrielle et instrumentation, donc c'est tout ce qui est informatique lié à l'industrie, donc on va trouver de l'automatique, de l'électronique, donc ça va être cette filière là. Technologie de l'information pour la santé, donc ça c'est une filière en partenariat avec des acteurs de la santé, donc c'est deux disciplines, informatique et puis santé. Et ensuite on a réseau informatique et communication multimédia, donc c'est là où j'enseigne. Donc on va avoir à la fois de l'informatique, on va dire type réseau, type système, et puis à la fois ce qui est rattaché à tout ce qui est communication et multimédia. Donc là, on rattache notamment tout ce qui est technologie du web, par exemple, d'accord, et traitement de l'information au sens large. Et puis il y a une petite filière aussi d'apprentissage. Donc ça, c'est amené à évoluer, puisqu'il y a de plus en plus de demandes de la part des étudiants d'avoir des choses liées à l'apprentissage. Une des difficultés dans ces filières-là, c'est de trouver les industriels qui veulent bien participer. Donc ça, c'était le petit côté école d'ingénieurs. Donc le bassin grenoblois, c'est un milieu assez riche d'un point de vue haute technologie. C'est parfois appelé, toute proportion gardée, une petite Silicon Valley à la française. D'abord, le milieu universitaire est riche. Il y a plusieurs universités Donc il y en a deux scientifiques, hein, Université Joseph Fourier, auquel j'appartiens, et Grenoble INP. Un laboratoire d'informatique, donc il y en a plusieurs en fait des laboratoires d'informatique. Donc, là c'est le laboratoire de recherche en informatique de Grenoble. Et puis après derrière vous avez aussi l'INRIA, enfin normalement on dit INRIA maintenant, il y a eu du relooking marketing. Donc il y a un institut national de recherche en informatique et automatique. Donc c'est en médecine vous avez l'INSERB, en informatique vous avez l'INRIA. Alors après, on a les poids lourds institutionnels aussi, comme un pôle de compétitivité. Donc c'est tout ce qui est lié à la promotion de la nanotechnologie. Et on a aussi de nombreuses sociétés, donc Capgemini, qui est une grosse société de services, Sogeti, Schneider, Atos, HP, ST Microélectronique. Donc ça, c'est des acteurs assez poids lourds dans le milieu informatique microélectronique. Le milieu associatif est aussi assez riche. Alors pour la petite histoire, la première maison de la culture en France a été mise en place à Grenoble en 68. Et on a des milieux aussi très militants, très rouges, donc ils sont anti-tout, anti-nano. Donc on a aussi des petites tensions, des petits échanges assez vifs. Depuis quelques temps, on a aussi un hacker space, donc j'en reparlerai après. Hein, il n'a pas du tout la même histoire que celui de Toulouse, il est beaucoup plus jeune. Et on n'a pas un si bel espace que celui-ci où on peut avoir des échanges très variés. J'aimerais qu'on arrive à ça sur Grenoble, mais on n'en est pas encore là. Donc, je pars sur l'historique et la genèse de la Fab Lab R. Alors, je ne vais pas trop détailler la notion de Fab Lab, je vais en parler un petit peu. Je pense que l'exposé d'après de Camille, elle parlera peut-être plus de tous les aspects vraiment concept de Fab Lab. Moi je vais aller assez vite, c'est juste notre expérience, je pense qu'il y aura une mise en perspective tout à l'heure. Donc je vais expliquer un peu notre évolution en fait. Donc on fait des projets informatiques et puis on s'est commencé à se poser des questions sur, bon, vous savez que l'informatique, hein, tous les 6 mois il y a des nouvelles technos, ça évolue toujours très très vite. Vos smartphones, c'était le portable qu'on avait il y a 5 ans sur le bureau, maintenant c'est dans la poche, donc ça impacte énormément de choses. On a commencé à initier avec le responsable notamment de la filière et d'autres responsables comment on devait faire évoluer notre enseignement et notamment comment dynamiser tout ce qui était projet informatique qui était jusqu'à maintenant très cadré. C'est-à-dire qu'on donnait un thème, c'était très balisé, et puis une évaluation assez classique. On a un gros souci d'effectifs, au sens où nos capacités d'accueil sont à peu près à 70 étudiants, et on en a à peine la moitié. Et sur la moitié, certains n'ont pas le niveau, donc quelque part, on gaspille énormément d'argent public. D'accord, ça coûte... Ça doit coûter dans les 10 000 euros par an et par étudiant. Donc le fait de ne pas remplir les classes, c'est un gros souci. On n'a pas de chômeurs. C'est en gros une semaine de chômage après le diplôme, enfin d'inactivité. D'accord ? Donc il y a un hiatus entre le marché du travail est là et on n'arrive pas à accueillir, à intéresser assez d'étudiants. On a commencé par diversifier les projets, par faire des essais variés et divers, en ouvrant un peu les sujets qui étaient avant très informatiques, au sens il vous suffisait d'un portable et puis on faisait nos projets, que ce soit en 4e, 5e année, hein, Master 1, Master 2. Et puis on s'est aussi intéressé, ça c'est le responsable de filière, à participer à des concours d'informatique. Et puis on avait aussi des partenariats, notamment avec Sun, qui a été ensuite racheté par Oracle, sur des réseaux de capteurs, les Sunspots. Et du coup, on s'est dit, faut qu'on fédère cette diversification des projets qu'on était en train de mettre en place. Il y a un truc, donc il y a à peu près, on va dire, il y a 4-5 ans, quoi, on pensait ça. Et puis les Fab Labs, ça commençait, enfin, on voyait que c'était en train de s'intégrer, d'advenir, il fallait faire quelque chose. Donc on a été voir notre établissement pour avoir quelques financements et surtout une salle. C'est un peu comme les hackerspace, c'est un peu comme beaucoup de collectifs. Il faut d'abord le lieu géographique. Quand vous avez le lieu, déjà, c'est super. Si vous n'avez pas le lieu, c'est beaucoup plus dur. Donc on s'est dit, eh ben, ok, on va mettre en place une salle. Donc cette salle, on l'a appelée R. Donc destinée, donc c'est une Fab Lab. Donc la notion de Fab Lab. Alors moi, j'en ai une version très simplifiée personnelle. Une version de Fab Lab, pour moi, ça va être un atelier avec une notion d'ouverture et de partage. D'accord ? Donc ouvert au sens où vous allez accueillir une variété de projets. Ça peut être des étudiants qui veulent faire construire quelque chose, donc ça va être un peu en dehors de l'enseignement. On va les accompagner. Et puis la notion de partage qui est que ben, vous voulez partager à la fois les connaissances, les expertises surtout, le fait que votre copain ben, il s'y connaît plus que vous en réseau et puis vous y connaissez plus en je sais pas, en électronique ou en couture ou tout ce que vous voulez. Hein. Tous les savoirs sont bon à apprendre. Alors, en fait, c'est pas une Fab Lab au sens strict. Au sens strict, une Fab Lab, c'est censé être à ouverture très très large, d'accord. Donc nous, on est pour un certain nombre de raisons, on peut pas ouvrir au public extérieur. Donc c'est pour les étudiants majoritairement. Donc physiquement, donc on est situé à l'école. Elle est à l'intérieur des locaux de Grenoble Polytech, de Polytech Grenoble. On a une salle, donc c'est celle que vous avez vue juste avant, là. Donc, en gros, c'est un petit atelier. Hein. On a bien sûr on a d'autres salles qui sont en reconversion, notamment une salle de TP électronique, qui nous permettra de faire des cours en plus en même temps. On a aussi une petite salle de stockage. Hein. Vous faites des projets, ben vous commencez à accumuler du matériel, après il faut le stocker. Puis bien sûr, on a un petit site web. Le plus pratique, c'est de mettre un site wiki. Vous avez l'adresse là, donc vous pouvez aller voir en même temps. Et puis un peu d'outils pour faciliter les développements et un petit compte Twitter que moi j'utilise pas trop. Bon. D'un point de vue matériel, donc dans une Fab Lab, on va avoir généralement des machines dites numériques, à commande numérique. Donc la star du moment, celle qui est pas mal popularisée en ce moment, c'est des imprimantes 3D. C'est pas forcément la plus importante. Les machines avec lesquelles on construit vraiment beaucoup de choses. C'est souvent, la meilleure machine, c'est une découpeuse laser. Ça, c'est vraiment pratique, ça va très, très, c'est très, très polyvalent. Alors nous, on n'a pas ça encore parce que c'est assez cher et ça demande, d'un point de vue de logistique, ça demande pas mal d'investissement. Donc on a une petite imprimante 3D pour jouer, pour faire des petits objets. On a une petite fraiseuse numérique de petite taille, donc ça permet notamment de faire les circuits imprimés. Si vous avez besoin d'un peu d'électronique, ça vous évite de faire des manipulations un peu pénibles. Après, on trouve du matériel qu'on peut trouver dans tous les ateliers, hein, perceuse à colonne, établi, et ainsi de suite. Donc en prévision, alors, on a aussi de l'équipement électronique classique, du fait des salles de TP électronique, fer à souder, oscilloscope et autres. En prévision, on projette d'acheter soit une découpeuse laser, soit une grande fraiseuse. Donc une grande fraiseuse, ça vous permet de faire, des boîtes en bois, des sérigraphies, enfin des gravures intéressantes et ainsi de suite. Donc sur des Fab Labs plus polyvalentes, normalement vous trouvez des machines à coudre, des découpeuses vinyle, de quoi faire des impressions sur des t-shirts. Donc tout cet aspect-là, on l'a pas. Nous, on est plutôt centré sur l'informatique et l'électronique. Alors sur Grenoble, il y a une vraie Fab Lab qui répond à la charte émise par le MIT. Elle a intégré un centre qui s'appelle le CCSTI, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Grenoble. Donc c'est financé en partie par l'agglomération de communes, par le CEA donc, et diverses institutions. Alors c'est une vraie Fab Lab, il faut savoir qu'une vraie Fab Lab, c'est à peu près 1 000 à 1 200 euros par jour, le prix, hein, parce qu'il y a des bonhommes. Cette Fab Lab-là, il y a une personne à plein temps, un technicien, et vous avez beaucoup de machines. Et des découpeuses laser, c'est à peu près le coût réel, c'est à peu près 60 euros par heure. Donc 60 à 90 euros par heure. Les coûts amortis, enfin, vous prenez tout en compte. Ils ont une politique agressive pour en termes d'ouverture. Vous ne payez que 10 euros heure l'accès à l'ensemble des machines. D'accord ? Et les étudiants, 5 euros heure. Ils sont en train de rechercher un modèle économique plus viable, parce que là, ce n'est pas viable au sens où c'est les institutions, enfin c'est le citoyen qui paye pour avoir cet accès-là. Ça marche vraiment très bien. La découpeuse laser, elle est pleine un mois à l'avance. C'est-à-dire, si vous voulez accéder à la machine, il faut attendre un mois. Donc ça marche très bien. Les gens qui sont à la tête de cette Fab Lab sont très actifs. Donc c'est vraiment très intéressant. On dialogue et on a des partenariats avec eux. Alors je reparle du Hackerspace de Grenoble, parce que le Hackerspace de Grenoble est accueilli dans les locaux de la Fab Lab le jeudi soir, et le mardi soir ils animent la Fab Lab auprès du public. Donc ça, c'est une association qui est sympa. Je ne sais pas si ça perdurera, mais c'est intéressant. Alors vous pouvez trouver aussi une présentation des Hackerspace et des Fab Lab faite par le cofondateur du Hackerspace, qui est assez intéressante, qui est assez didactique. Donc je vous invite à regarder sur le net, vous la trouverez. Alors il y a d'autres acteurs en fait dans le milieu grenoblois qu'on peut rattacher en fait à la notion de Fab Lab. Et je pense que si vous regardez dans les autres facs, l'ensemble des sites français, vous allez trouver à peu près les mêmes configurations. Il y a une grosse plateforme de prototypage interuniversitaire qui s'appelle Ginova. Donc vous alliez sur le site, on va dire, il y a 4-5 ans, il n'y avait pas marqué Fab Lab dessus. Maintenant, ils ont marqué Fab Lab, parce que c'est à la mode, et du coup, ils ne voulaient pas perdre le... Enfin, il fallait qu'ils suivent. Dans ce lieu-là, vous avez vraiment du prototypage, on va dire, de professionnels. Par exemple, ils viennent d'acquérir, il y a quelque temps, une imprimante 3D titane. Donc le titane, ça peut servir, par exemple, à vous avez un cancer à un endroit, on va dire, au niveau de la osseux, au niveau d'une mâchoire. Le cancer détruit la mâchoire. On va imprimer une nouvelle mâchoire qui sera la même que celle que vous avez perdue. Ça se fait maintenant. Enfin, en expérimentation, ils le font. Donc en gros, ça permet des cycles beaucoup plus rapides d'un point de vue médical. Parce que bon, avec des techniques de reconstruction 3D, on peut retrouver un peu l'aspect du bout de mâchoire. Et puis ça va parfaitement. C'est vraiment intéressant. Après, c'est aussi utilisé pour faire des petites pièces vraiment particulières où, d'un point de vue mécanique, on a des besoins particuliers. Les imprimantes 3D que vous voyez dans la salle à côté, dans les ateliers, c'est du plastique. C'est pas les contraintes mécaniques sont bien sûr pas du tout les mêmes que le titane. Vous pouvez faire du moulage alu. Donc il y a un TP, c'est auprès des étudiants, ils font des trucks de skateboard, donc des bouts de skateboard, hein, donc des choses assez rigolotes. Et puis ils ont plein d'autres techniques qui sont hors de portée d'une Fab Lab classique en fait. En discutant avec les gens, il y a des Fab Labs internes. Dans certaines boîtes, ils ont leurs propres ateliers qui ressemblent en fait à des Fab Labs. À l'INRIA, donc l'Institut de recherche où je fais ma recherche, ils ont un atelier de robotique, ça ressemble vachement à une Fab Lab. Et puis on a des associations qui sont à thématique ciblée. Donc vous allez avoir des associations, notamment couture. Donc là, tout le matériel pour tout ce qui est couture, et puis aussi le partage de connaissances. Vous avez sur le bois aussi, vous avez des associations assez vieilles qui travaillent à une Fab Lab spécialisée. Alors, Je vais maintenant parler en fait de ce qu'on fait dans notre Fab Lab. Donc c'est principalement centré, mais pas que, sur les projets étudiants. Donc on en a à peu près une vingtaine de projets par an, avec des équipes de 2 à 3, voire 4 étudiants. Donc sur le site, vous pouvez voir un peu les projets qu'on a pu faire ces dernières années. Donc c'est principalement ciblé sur les, parce que c'est intégré aux enseignements, ciblé sur les années 4 et années 5, M1 et M2, Master 1, Master 2. Donc l'école d'ingénieurs où je suis, on fait 3 années, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, donc L3, M1, M2. Sur un mois, donc c'est pas du temps, c'est pas du plein temps, hein, c'est réparti. Et on a certains projets qui sont repris d'une année sur l'autre, soit par la même équipe, donc on va avoir des étudiants qui commencent en quatrième année et des étudiants qui poursuivent le projet en cinquième année. C'est ces projets-là qui marchent quasiment le mieux d'un point de vue aboutissement. On a aussi des projets qui sont multifilières. Donc on va faire intervenir, je vous ai présenté rapidement les plusieurs filières. Donc on va faire intervenir la filière donc, plutôt informatique avec les filières santé, enfin information santé. Et les 3I, donc l'électronique, on peut les faire aussi intervenir sur certains projets. Et ça nous a ouvert cette diversité et l'ouverture qu'on a un peu poussée. On a pas mal de partenariats à la fois académiques et privés. Alors on a d'abord des ingénieurs en informatique. Donc les projets, c'est un moment où, d'un point de vue enseignant et enseignement, on veut évaluer leur montée en expertise dans le domaine. Et aussi une capacité à mener un travail d'équipe. Donc c'est ça que nous, on a comme objectif pédagogique en premier lieu. C'est ça notre priorité. Si on fait des projets et on n'est pas capable d'évaluer ça, ben on a un souci. Parce que quand je donne le diplôme à l'étudiant, quand la boîte va vouloir embaucher un de nos étudiants, nous on va être sûr qu'il ait le niveau. Moi, quand je fais ma recherche, ça m'arrive dans des projets d'employer certains de mes étudiants. Je veux qu'ils soient performants, sinon ça ne marche pas pour le projet. Lorsqu'on produit à la fin du code source, donc on essaye qu'il soit le plus possible en open source, des maquettes, quand il y a des choses à construire, bon, bien sûr un rapport, un support de présentation, des fiches de suivi et d'études de génie logiciel, donc ça c'est un peu l'évaluation côté pédagogique. Et puis on essaye après de dynamiser les choses, donc soit de les faire participer à des concours, donc produire des flyers, avoir des vidéos de démonstration et ainsi de suite. Alors maintenant je vais pour le projet. Rapidement. Donc une table tactile. Donc c'est des étudiants qui sont venus nous dire nous on voudrait faire une table tactile, grande taille. Ce qu'ils avaient regardé sur Internet, en do it yourself, faites-le vous-même, y avait pas mal de projets. Donc on leur a donné un peu d'argent pour acheter une table Ikea, avec une vitre au-dessus. On leur a prêté un vidéoprojecteur, alors il faut du papier calque, du webcam, l'éclairage infrarouge. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on ne va pas avoir le temps. Si vous avez des questions après sur des projets, je pourrais réagir. Et puis, il faut un petit logiciel pour que tout cela fonctionne. Donc, ça donnait ça en gros. Donc, une table Ikea, c'est assez grand. Enfin, c'était, 1,50 m sur 90 cm peut-être. Ils ont fait ça sur la première année, enfin en quatrième année. Ils ont repris ça en cinquième année. Et leur stage de fin d'année, ça a été de monter une boîte, en fait, autour du concept de table tactile, donc à des fins de conseil, d'exposants et ainsi de suite, et avec l'accompagnement de l'université qui est une structure de valorisation, cette structure-là a monté ce qu'ils appellent une business unit, donc une structure pour, enfin un mécanisme pour accompagner le montage de start-up. Et la direction des étudiants. Donc en fait, ils ont d'un petit projet qui était du j'ai envie de faire ça, ils en ont acquis une expertise Et ils en sont venus à monter une petite entreprise, une petite start-up qui s'appelle Digital. Donc là, on voit une de leurs tables en version plus professionnelle qui a été utilisée dans un salon. Donc ça, c'est assez sympa. Alors, je vous ai dit qu'on travaillait avec une filière orientée santé. Donc ça nous apporte un certain nombre de projets très intéressants et qui permet en fait d'avoir pas mal d'acteurs autour des projets. Donc là, c'est un fauteuil roulant. L'idée est d'avoir une assistance de suivi de la personne utilisatrice d'un fauteuil roulant. Alors, il faut savoir qu'un fauteuil roulant, si vous l'utilisez mal, vous pouvez vous abîmer les articulations. D'accord ? Il y a aussi le fait que vous baladez, enfin, la personne en fauteuil roulant se balade dans une ville, elle rencontre des problèmes, au sens où, là, pour passer à cet endroit-là, elle va être en peine. Et comment le signaler simplement ? On peut le signaler simplement de plusieurs façons. Soit on voit que le fauteuil, on monite le fauteuil, puis on voit que tiens, il se passe un truc bizarre. L'idée, c'était de rajouter un petit téléphone, enfin une application sur un téléphone qui permette à la personne handicapée de signaler qu'il y avait un souci à tel endroit. Et en prenant la position GPS, on répertorie les endroits à problème. Et pour les problèmes liés à l'usage du fauteuil, on met des capteurs et puis on fait du post-traitement, on regarde comment la personne s'est servie du fauteuil et puis on peut voir sa vitesse de rotation, des choses comme ça. Donc le praticien peut lui après analyser un peu les profils et après discuter avec le patient ou la personne handicapée pour voir s'il y a des soucis. Vous savez aussi qu'un des gros soucis des personnes handicapé, c'est le problème des scars, le fait que de rester sur un point d'appui qui n'est plus irrigué d'un point de vue du sang, il y a des gros risques de nécrose et ça c'est un gros problème. Donc vous pouvez aussi avoir des capteurs sur un fauteuil qui vous disent attention, ça fait trop longtemps qu'il y a ce point d'appui là, il faut bouger, d'accord. Donc ça c'est d'un point de vue électronique mise en place, c'est des choses qui sont devenues super faciles. Enfin, assez facile à faire, au moins en termes de prototype. Donc là, on va retrouver de l'Arduino, donc la petite carte de prototypage qui est devenue maintenant classique. C'est un projet qui a bien marché, qui a aussi fonctionné sur plusieurs années. C'est un peu des détails informatiques, mais on va pas rentrer dans ces détails-là, c'est pas grave. Ça a été présenté à différents concours et il y a eu un prix, Trophée de l'innovation, concours des FIH de initié par la SOGT, le monde informatique. Alors le H, c'est pour handicap, donc c'est tout ce qui est lié à la santé. Alors là, on est quand même un certain nombre de personnes dont la place sont des hackers, donc la petite séance technique. Puis après, on reviendra sur un discours plus haut niveau. On a donc des partenariats avec la société ST Microélectronique, donc qui fait des microcontrôleurs. Vous en avez, je pense, là dans la salle. Enfin, tous les gens qui ont des Mac, ils en ont au moins, que ce soit iPhone ou Mac, il y en a au moins, je pense, 4 ou 5 dedans. Donc des tout petits microcontrôleurs. Vous avez le gros processeur qui est l'organe principal d'un ordinateur. Puis il y a plein de périphériques, plein de petits trucs en plus. Souvent, vous allez retrouver du ST Microélectronique dedans. Donc là, l'idée, c'est donc qui est très, on va dire plutôt technique, c'est qu'on a des outils de virtualisation, donc des espèces de logiciels pour pouvoir émuler, c'est-à-dire rendre un logiciel fonctionnant comme une autre machine, qui est d'un point de vue informatique, c'est un outil très important pour simplifier les développements. Et ce qu'on voulait faire, c'était que un microcontrôleur, une carte développée par ST Microélectronique, soit portée sur cet environnement-là, qui est l'environnement QEMU. Alors QEMU, faut savoir que dans le monde du hacking, il y a des stars aussi. En France, il y a une star qui s'appelle Fabrice Bellard. C'est quelqu'un qui est très très fort. Vous regarderez sur sa page Wikipédia. Donc c'est quelqu'un de l'ombre, on ne le voit jamais sous les projecteurs, ce personnage-là. De toute façon, quand vous l'invitez dans une présentation, vous voyez qu'il n'aime pas trop les... Mais c'est quelqu'un qui est très fort. Son code, c'est considéré comme la plupart, enfin, parmi le monde du hacking, lire son code, c'est en fait toucher la substantifique moelle du hacking. C'est-à-dire qu'il n'y a, bon, y a pas de commentaires, donc le niveau d'entrée est très élevé, mais tous les gens qui disent à un moment donné « Ah oui, là j'ai vu quelque chose de vraiment beau », donc c'est un peu la noblesse dans le hacking de se rendre compte que quelqu'un a fait quelque chose de très très beau. On regarde, mais d'un point de vue compréhension un peu intellectuel. Bon, j'arrête là, hein, parce que ça c'est... non, enfin, si, pour finir, typiquement, les étudiants qui ont fait ça, je leur ai dit, ben, si vous mettez sur votre CV que vous avez travaillé sur QEMU, que vous avez compris un petit peu ce qu'il y a dans ce logiciel-là, ben, vous verrez que dans certaines boîtes, il y a un œil qui va, une tête qui va se lever et que ça peut vous ouvrir des portes. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Hein. Alors, on revient sur les aspects santé. Donc là, c'est dernièrement un truc qui était assez rigolo, c'est de prendre un petit bras. Alors, je ne sais pas si j'ai le. Donc de prendre un petit bras manipulateur et de mettre aussi un petit appareil sur la tête là, d'accord. Donc ça, en gros, c'est des capteurs électromagnétiques. Ça capte les ondes cérébrales, mais ça capte surtout tout ce qui est commande des muscles autour des yeux, d'accord. Et du coup, donc je vous montre tout de suite l'action que ça, et vous allez comprendre. Donc voilà, vous allez voir, là c'est le bras manipulateur, il bouge. Et donc ce que vous avez sur l'écran, c'est l'outil de contrôle. Et donc en gros, si vous donnez si vous bougez votre œil suivant certaines directions, ben, ça va être capté par le petit équipement que vous avez sur la tête. Et puis c'est relativement facile à traiter et c'est très réactif. Donc c'est pas du tout la lecture des ondes cérébrales, hein, parce que ça c'est très difficile, c'est pas instantané, mais là on peut relativement simplement commander, envoyer de l'information à un ordinateur qui après bon ici manipule un petit bras manipulateur. Donc l'idée, hein, c'est quelqu'un qui est tétraplégique, il a besoin de donner des actions, de demander à prendre des objets, ben on imagine que ça déclenche le bras manipulateur, d'accord. Donc ça, c'est aussi assez sympa comme projet. Donc il est midi, ouais, ça va aller. Hop. Donc pareil, on a... alors là, en termes d'équipement, un petit bras manipulateur, ça vaut 300-350 €. Le casque, je sais pas, ça doit être dans une centaine d'euros, je pense, 100-150 €. Donc c'est des projets, il faut un peu de financement pour les projets, mais c'est pas des financements délirants, et c'est surtout le bras, par exemple, robotique, là, c'est réutilisable, on l'a déjà réutilisé sur 3, 4, 5 projets. Donc c'est pas des investissements très très onéreux. Enfin, dans un pays comme la France, qui est en fait riche, ce type de projet-là, c'est un peu de paperasse, hein. Faut défendre un petit dossier, mais c'est pas très cher. Alors un autre truc rigolo, donc ça c'est fait avec un... Alors, j'ai pas de belles photos, c'est dommage. C'est fait avec une équipe de recherche de l'INRIA. Alors, c'est un trottomètre. Alors, un trottomètre, qu'est-ce que c'est? C'est une trottinette plus un odomètre. Donc, un odomètre, qu'est-ce que c'est? C'est un appareillage pour mesurer les distances. Donc, alors, comment on appelle ça déjà? Le podomètre. Voilà, le podomètre est un odomètre, donc qui sert à mesurer le nombre de pas. Donc en gros, là, l'idée, c'est quoi? C'est je prends une trottinette, je mets un petit capteur sur la roue qui va me mesurer la distance parcourue par ma trottinette. J'ai une application sur mon smartphone, donc c'est ce qui développe les étudiants. Et puis, je fais de la cartographie grâce à ma trottinette. D'accord? Donc, vous recueillez assez précisément la trace de l'évolution de la trottinette. Donc l'intérêt, c'est aussi de le faire dans un bâtiment. Donc il cartographie à la fois des lieux publics et à la fois, par exemple, notre établissement. Et après, ils vont mapper ça sur OpenStreetMap. D'accord ? Donc OpenStreetMap, hein, c'est le Google Map libre. Et du coup, vous pouvez vous retrouver avec des cartographies de lieux publics et voire d'établissements. Par exemple, ils ont mis où était la... dans OpenStreetMap, eh bien, vous pouvez voir où sont les toilettes. Vous avez une finesse et à un moment donné, vous voyez les informations comme les toilettes. Enfin, après, il faut rajouter des informations. Après, c'est le travail d'OpenStreetMap. Mais on va voir les traces des couloirs, en fait. D'accord ? Donc, vous allez, d'un point de vue, si je reprends Google Maps, eh bien, vous allez plus loin que Google Maps. D'accord ? Donc ça marche pas mal. Alors il y a des problématiques de calibrage. Vous avez des traces qui collent pas, qui sont en contradiction avec les informations de plus haut niveau. Donc là, au niveau informatique, il faut développer des petits systèmes, soit de recalibration, enfin ou de normalisation, soit il faut permettre à l'usager de corriger tout cela. Et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc ça va être le dernier projet là que je vais développer. Rapidement. Donc c'est notre projet Robert. Robert pour robot et puis R. Donc c'est les plateformes de robotique de téléprésence ouvertes. Donc vous en avez un super exemple à l'atelier là. Alors je ne sais pas s'il était en marche tout à l'heure. Donc ça c'est une version qui est déjà vachement évoluée. Vous allez voir la nôtre, ça va vous faire marrer. Donc c'est un projet qui monte en puissance ce truc-là parce que c'est aussi à la mode. Vous savez que les Japonais disent que de toute manière, la robotique, on en aura vraiment énormément besoin à tous les niveaux. Donc, bon. Et puis, c'est, d'un point de vue projet, c'est vraiment un terrain de jeu qui est vraiment génial. Ça pose plein de problèmes informatiques, électroniques, et ainsi de suite. Donc, un beau terrain de jeu. On a 3 plateformes en cours de développement, 7 projets. Il y a plusieurs filières de chez nous et aussi de notre... l'université voisine qui est notre ennemi juré, mais bon, comme ils sont plus forts que nous, donc c'est l'ENSIMAG, donc c'est une école d'ingénieurs qui est de très bon niveau. Et puis on a aussi un partenariat avec le pôle de Villefontaine de design. Donc vous voyez le petit robot là, c'est ce qu'ils nous ont proposé comme design, c'est la classe. Et puis on travaille aussi avec le CCSTI. Alors, le thème, c'est, vous le voyez ici, c'est en fait la téléprésence dans un musée. C'était ça un peu le thème de cette année. C'est, vous imaginez, une classe qui veut visiter un musée, mais qui n'a pas les moyens de se déplacer. Ce qu'on aimerait potentiellement vouloir lui offrir, c'est un robot de téléprésence qui permet à la classe de se balader dans un musée, d'interagir avec une personne qui peut présenter et détailler les œuvres. Et puis ainsi de suite. Ça peut aussi être intéressant au sens où ça peut être une téléprésence qui peut se déployer aussi la nuit. On n'est pas obligé d'avoir... ça peut être en dehors des ouvertures du musée. Alors ça, c'est le pôle design hein, qui a fait ce petit robot-là. Donc c'est super joli. Je vous passe pas leur présentation parce qu'après, j'aurai honte de ma présentation à moi. Et puis ça, c'est ce que nos étudiants ont fait. Donc... Alors, en bas, c'est la partie mécanique. Vous avez une Kinect. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la Kinect, ça permet en gros d'avoir une représentation numérique de l'espace en 3D. Donc, après, ça a des bonnes propriétés pour se déplacer et cartographier le 3D. Et puis, ils ont le bras, les étudiants, là, le coude à coudé au-dessus d'une tablette qui est censée projeter l'image. Des gens en distant et aussi il y a une caméra pour voir ce qui se passe. Alors il y a un tas d'autres projets, je ne vais pas avoir le temps, hein, donc on va juste continuer. On va parler un peu de l'impact sur les... Je vais prendre 5 minutes pour détailler l'impact sur les enseignements. Ça nous a amené à développer de nouveaux cours, des cours... Alors qu'on nomme physical computing. Le physical computing, c'est quand vous voulez associer à la fois l'informatique et le monde physique, et l'interaction avec le monde physique, à travers des capteurs, des actuateurs, donc des moteurs, des boutons poussoirs, des caméras, et ainsi de suite. Donc ça suppose un enseignement un petit peu particulier. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez des équipements comme l'Arduino qui sont très faciles de prise en main, et donc vous pouvez commencer très tôt, en fait. Vous pouvez commencer en L1, en poste, même au lycée, on pourrait commencer l'initiation. Et c'est tellement facile qu'il y a la barrière. Généralement, quand vous apportez un objet technologique, que vous dites, bon, voilà, on va le programmer, on va l'utiliser. Si c'est pas une personne qui est un peu, on va dire geek entre guillemets, ben vous avez perdu. C'est même pas la peine. C'est trop dur. Avec l'Arduino, ben en fait, en 5 minutes, vous faites clignoter une LED et vous montrez comment changer la vitesse de clignotement. Et ça, les gens, ça marche quoi. Ça marche auprès des jeunes. Ça marche auprès de beaucoup de personnes. Alors que avant, on pouvait le faire avec d'autres équipements, mais c'était très lourd. L'Arduino a libéré tout cela. Donc, s'adapter à un public varié et aussi travailler sur la diversité de domaines. Donc ça, c'est un gros travail. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement Fab Lab, vous n'allez pas faire que de l'informatique, vous n'allez pas faire que de l'électronique, vous n'allez pas faire que de la mécanique, vous allez faire un peu de tout. Et ça, c'est un gros sujet. Et c'est là que le partage est très important. Autre évolution sur nos enseignements, on a mis en place des séminaires thématiques. Donc en fait, on invite des acteurs, alors que ça peut être de l'industrie, hein, par exemple STMicroélectronique, certains artistes comme la compagnie Adrien M et Claire B, qui associent en gros la danse, le jonglage avec des aspects visuels numériques. Donc ça, ils sont à Lyon, ils sont basés à Lyon maintenant. C'est très très intéressant ce qu'ils arrivent à faire. Je n'ai pas le temps de développer là, mais ça ressemble un peu à... vous allez au fond, là, vous avez un écran où vous dessinez avec une bombe. Et ils utilisent un peu ce principe-là. Donc je vous invite à regarder, à demander comment ça marche, et puis ça donnera un éclairage sur leur travail. Et puis après, bon, il y a des choses un peu plus techniques sur des technologies informatiques que je ne veux pas développer... Et puis on pousse certains, quand les projets sont un petit peu aboutis, on les pousse à aller à l'extérieur, à participer à des concours. Donc ça, généralement, les étudiants, ils aiment bien. Et puis nous, ça nous fait un peu de com' à pas cher. Et puis on anime aussi, on participe à la nuit de l'info. Donc ça, c'est national, c'est en début décembre. Il y a pas mal d'écoles d'ingénieurs maintenant ou d'universités qui participent. Alors les partenaires, je ne vais pas tous les lister là, les détailler, mais ça ouvre. On a contacté notamment le directeur de la filière, responsable de la filière, et il aime bien ce travail-là d'aller auprès des industries. Quand on leur présente le projet, quand on dit est-ce que vous ne voulez pas nous donner un peu de matériel, généralement ils répondent oui. Pour la petite histoire... Alors, je ne sais pas si vous connaissez Parotte SA, c'est une société qui fait à la FNAC, vous avez dû voir ça, des petits quadroptères, des drones. Il est allé à un salon, ils étaient prêts à nous en donner 10. On dit non, peut-être pas 10, on va juste vous en prendre 2 parce qu'on n'a pas beaucoup d'étudiants et non. Un autre gros donateur, c'est Intel. Si ça vous intéresse, ce type de montage et de partenariat, Intel, ils ont auprès des universités, du monde enseignant, vous leur présentez un projet, ils vous donnent du matériel assez simplement, que ce soit des tablettes, des téléphones. Ils ont des caméras maintenant qui ressemblent un peu à la Kinect, qui ont d'autres propriétés, c'est vraiment intéressant. Après, on a d'autres petites collaborations, le fauteuil roulant, c'est une société qui fait des fauteuils qui nous l'avait donné, ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne va pas que dans un sens. STMicroelectronics font des cartes. On va dire beaucoup plus puissante que l'Arduino, mais beaucoup plus difficile à utiliser. Et on leur a dit, mais c'est dommage, alors c'est des kits de découverte, c'est dommage parce que il y a des points qui nous embêtent pour nous d'un point de vue pédagogique. Ce serait bien que vos prochaines itérations vous fassent évoluer cela. Ils l'ont entendu, ils l'ont fait. Vous trouvez des acteurs, des acteurs économiques importants qui sont, quand vous trouvez les bonnes personnes, les bons points d'entrée, on peut faire énormément de choses. Bien sûr, ça demande du temps et de l'investissement, mais il y a des choses intéressantes à faire. Alors, les Fab Labs sont à la mode, en tout cas à Grenoble, et puis même un peu partout en France, là maintenant, voire dans le monde. Les politiques s'emparent du terme. Donc, ça veut dire quoi ? Facilité de financement, ça devient plus facile pour avoir du financement. Ça fait aussi plus de gaspillage, hein, je ne vous le cache pas. Sur Grenoble, bon, je vous ai parlé de deux Fab Labs. Il y en a une troisième chez nos frères ennemis, donc l'ENSIMAG, mais bon, avec qui ça se passe très bien en fait. Faut savoir qu'il y a deux autres Fab Labs qui sont en train de se monter. Il y a des projets de recherche. On a aussi le CEA qui regarde ça de très près. On a aussi un truc qui s'appelle IRT Nanotechnologie. Donc ça, c'est des histoires à la Sarco, où il a mis balancé des millions et des centaines de millions d'euros sur la table. Et eux, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? Donc, ils ont inventé le concept de nanotechnologie fermée, en fait. C'est-à-dire que la nanotechnologie, ça a tellement d'enjeux financiers qu'ils ne peuvent pas vraiment faire de Fab Lab. C'est pas possible. Parce que si vous travaillez sur une techno brevetable et qui a un impact sociétal énorme, ça ne peut pas être ouvert, ce truc-là, fondamentalement. Donc, ils sont assez embêtés parce qu'ils voient bien que ils aimeraient à la fois participer d'un point de vue local et aider à faire vivre les Fab Labs, mais d'un autre côté, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas facilement ouvrir. D'accord ? Donc il y a une personne très intéressante là de cette structure qui fait le tour de toutes les Fab Labs grenobloises et qui regarde comment ils pourraient financer en accord avec ces missions. Donc ils ont notamment financé l'ENSIMAG, la Fab Lab de l'ENSIMAG, ils ont commencé à la financer. Et donc, on est en discussion aussi avec eux. Ce qu'il faut retenir, c'est que du point de vue de Grenoble, c'est des choses qui se sont... Il y a un travail de structuration. Et c'est difficile parce que vous avez des étages politiques. Et ça, vous le savez, enfin, pour les gens qui sont un peu engagés dans des actions politiques, ça prend du temps, c'est beaucoup de présentations, beaucoup de discussions. Des fois, il y a des enjeux politiques cachés, donc c'est assez délicat. Il faut que je finisse là. Alors, la place du logiciel libre, on essaye que ça soit omniprésent à tous les étages. Personnellement, je ne m'investis pas sur des logiciels fermés type parce que je n'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps et ça ne m'intéresse pas. J'ai tellement à faire en open source. Enfin, et je profite tellement de l'open source que je préfère rester dans l'open source. Donc on essaye de populariser ça au maximum. Alors parfois c'est pas faisable ou possible quand vous travaillez avec certaines boîtes qui elles ont besoin de protéger un peu leur code parce que c'est vraiment leur valeur ajoutée et leur business peut tenir sur des éléments clés. Donc c'est pas toujours, on peut pas toujours appliquer cela en fait. Ou tout simplement parce que vous utilisez la dernière Kinect ou la dernière caméra Intel, et puis de toute façon, les drivers, ils sont fermés, ce n'est que sous Windows, et patati patata, donc il faut s'adapter. Il y a aussi des difficultés à utiliser des logiciels open source ou des logiciels trop récents. Il va y avoir des bugs, des problèmes d'installation, et ça, quand vous mettez en place des projets, ça peut vous tuer un projet. C'est-à-dire que si ce n'est pas bien préparé, les étudiants, ils sont pas tous, c'est pas tous des hackers, ils sont pas tous super forts, et c'est très rebutant pour eux et du coup ça se passe pas bien. Donc ça c'est tout ce qui est histoire de prise en main, coûts de prise en main de nouveaux logiciels ou d'un nouveau langage. Ça il faut l'anticiper d'un point de vue pédagogique, enseignant, et c'est pas simple. On a aussi après les problèmes de droits patrimoniaux, c'est-à-dire si vous faites du code, à qui appartient le code ? Aux stagiaires, à l'école, à l'entreprise avec qui vous avez travaillé. Donc à l'heure actuelle, c'est un peu ici comme dans ce lieu-là, on ne se pose pas de problème, on fait les choses et puis ainsi de suite. Mais ça ne peut pas perdurer en fait, il faut rationaliser. Notamment moi, dans ma recherche, quand je fais un code, il ne m'appartient pas, il appartient à mon employeur. Si vous accueillez un stagiaire, le code appartient au stagiaire, il n'appartient pas à l'institut. Donc dans le droit français, il faut regarder un peu comment ça fonctionne. C'est pour ça que normalement, si vous accueillez un stagiaire, vous êtes une société, vous accueillez un stagiaire, vous devez lui faire signer un document comme quoi il cède bien les droits patrimoniaux, donc celui qui peut décider de la licence du code. Et normalement, c'est ça qu'on devrait faire. Moi, je ne le savais pas il y a quelque temps. Hein, j'ai fait plein de trucs. Alors, ce qui marche bien, c'est que pour le bilan, c'est que y a une bonne réception, des projets à foison, hein, beaucoup d'échanges, ça c'est super sympa. Ce qui fonctionne moins bien, bon, on n'est pas en phase de maturité encore. On découvre un peu ce fonctionnement d'ouverture. Parce qu'avant, on avait des choses très, très cadrées. Donc, c'était assez facile. Là, on ouvre. Et d'un projet à un autre, nos grilles d'évaluation ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un truc qui n'est pas facile à gérer. Donc les étudiants, ne sont pas tous des hackers. Ils ne vont pas passer des nuits blanches à débugger un truc. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Hein. Donc il y a du travail en amont. Et ce que je dirais, c'est que les projets qui marchent vraiment bien, c'est les projets qu'on arrive à faire sur plusieurs années. Ça, c'est généralement, on arrive à des choses assez sympas. Je vais m'arrêter là pour le temps d'une petite ou deux questions. Donc en gros, la Fab Lab, pour nous, c'est une expérience qui est vraiment intéressante et enrichissante. Pour les étudiants aussi, me semble-t-il, et pour nous aussi. On promeut cette façon de faire maintenant pour les projets. Hein. Ça va un peu dans le sens de l'histoire où les gens et les jeunes veulent un peu plus de concret, ce que nous permet ce travail autour d'un atelier ouvert. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on va avoir un peu de temps pour une ou deux questions.
Merci, bonjour. Emmanuel Roux, donc FacLab et Forge des possibles. Je voulais vous dire que c'est très très bien. Voilà, vous faites un beau travail d'école d'ingénieurs avec des ingénieurs et des projets d'ingénieurs jusque-là. Vous faites très très bien ce travail. Là où je suis beaucoup beaucoup plus surpris, c'est sur la définition que vous pourriez peut-être nous redonner. En plus, j'ai loupé le début, donc j'ai peut-être loupé quelque chose de ce qu'est un Fab Lab.
Alors, Camille, tu referas une définition de la Fab Lab ou pas ? Ok. Alors, moi, Fab Lab, en fait, je m'en fous.
Ouais, ça je vois bien. Ouais.
Ce qui est important, c'est l'esprit, d'accord ?
Oui, alors avant que vous continuiez dans ce cas, c'est bien ce qui m'intéresse, parce que ce que j'ai vu comme définition dans les premières slides, c'est qu'un Fab Lab, c'est un endroit où on a des outils. Point.
Alors, non. Alors je ne sais pas si vous étiez à la transparent là. Ma vision simplifiée, c'est un atelier ouvert avec du partage.
On est bien d'accord.
Après,
donc pour être ouvert...
Après, on est dans un écosystème. D'accord. Mon écosystème à moi, c'est l'école d'ingénieurs. Du coup, je n'ai pas le droit d'inviter des gens après 6 heures. Je n'ai pas le droit d'inviter du public comme ça. S'il y a un problème...
Oui, est-ce que vous pouvez avancer d'une slide ou deux ? Attendez, parce qu'on a vu les Fab Labs de Grenoble, Lab d'Orange, on a vu le Fab Lab, etc. Oui. Et le mot Fab Lab est apparu au moins 10 fois dans l'écosystème. Ce ne sont pas des Fab Labs. Attention... ce ne sont même pas des makerspace. Hein. On ne va pas parler ici Fab Lab, makerspace, ça je m'en fous. On est là pour dire un makerspace, l'objet, c'est quand même le premier objet, c'est la réappropriation par tout à chacun des technologies. Et donc, à partir du moment où on est réservé sur des ingénieurs pour des ingénieurs, sur des projets d'ingénieurs, on ne peut pas être des futurs ingénieurs pour des futurs ingénieurs par des futurs ingénieurs. On n'a pas de réappropriation. Quand je vous dis qu'on fait de l'Arduino à partir du lycée, nous, dans nos lieux, on a des gamins, ils ont 10 ans, 11 ans.
Oui.
Fait des ateliers en permanence. C'est mouflé, quoi. On est plusieurs ici, effectivement, à le faire. À 10 ans, vous faites clignoter des LED, il n'y a aucun problème. Et voire même, vous utilisez des motor shields pour faire des petits robots.
Oui.
On est sur de la vraie réappropriation technologique par le citoyen. Or, le mot Fab Lab associé à 10 ou 15 institutions, comme vous l'avez fait, qui sont des institutions toutes fermées, qui visiblement n'arrivent même pas à travailler ensemble... J'avoue, j'ai du mal à laisser passer.
Là, vous êtes un petit peu dogmatique.
Non, je suis...
Laissez-moi vous expliquer. Sur Grenoble, on a attendu longtemps l'émergence du hackerspace. Mais longtemps, on est plusieurs à se dire, enfin, on arrive à monter un hackerspace. Parce qu'on n'avait pas l'espace. Et l'espace nous a été fourni par le CCSTI, une institution. D'accord ?
Très bien.
Là, les Fab Labs, ça monte fort. En sous-marin, on est en train de voir nos directeurs d'université, nos big chefs, en disant « Bon, ce qu'on fait là, c'est joli, on surfe sur la vague. Maintenant, il nous faut une grande Fab Lab ouverte. » Mais ça, nous, en tant qu'école, je peux pas le faire directement.
En tant qu'université de Cergy-Pontoise, on le fait. On est ouvert aujourd'hui, ça fait une heure qu'on est ouvert. On a 12 citoyens qui sont en train de partager, de créer, de co-innover. C'est-à-dire qu'on ne peut pas associer et récupérer un mot pour des pratiques qui sont des pratiques anciennes et qui sont les mêmes idées que celles qui étaient déjà là. Projets étudiants menés sur un mois, au moins si le lieu était ouvert en permanence à vos étudiants pour qu'ils aillent bricoler quand ils veulent dedans, ce serait déjà un petit peu plus ouvert.
D'accord, j'étais un petit peu pris par le temps, je n'ai pas pu détailler tout. le premier projet que j'ai présenté, ils y avaient accès, ils avaient la clé. Donc ils avaient la clé, ils avaient accès quand ils voulaient. Parce que, mais ça, je ne l'ai pas dit. Parce que bon,
Faites attention au discours, parce que le discours que vous dites, c'est nos étudiants, ils vont à heure fixe pendant un mois.
Parce que c'est la majorité, à l'heure actuelle, c'est la majorité fonctionnelle. Parce que je le prends sur mon... Je ne suis pas rémunéré pour faire ça. Je le fais en plus. Je me dis, l'esprit Fab Lab, moi, je ne suis pas dogmatique. Je surfe sur la vague. Fab Lab, pourquoi ?
C'est le problème.
Parce que dans notre monde actuel, si vous n'utilisez pas les codes marketing, vous n'êtes pas entendu. J'aurais jamais eu d'argent.
On n'est pas un code marketing.
Mais si.
Soyons clairs, non. Non, il y a des valeurs derrière. Il y a un mouvement qui est constitué depuis plus de 10 ans, qui est international. Il y a des gens en ce moment qui travaillent jour et nuit pour le constituer et pour permettre de faire émerger une fabrication numérique personnelle.
Mais on
n'a pas besoin d'écoles d'ingénieurs qui viennent utiliser des mots en utilisant leurs pratiques. Je suis désolé, je vais m'arrêter là.
Je trouve que c'est un peu dogmatique. Tous nos codes sont ouverts. Je promeus l'ouverture de code. J'ai fait évoluer. Mais vous pouvez pas. Il y a des gens chez Microsoft qui sont très bien. Microsoft.
Ça veut dire qu'avoir des codes ouverts en travaillant avec des aérodrones, c'est faux. Quoi, à un moment donné, il faut avoir un discours cohérent. Je suis désolé.
Enfin, on pourra en discuter après. Mais c'est un peu manichéen, je pense, votre vision. Je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va... En tout cas, on travaille avec beaucoup de Fab Lab et le CCSI, c'est une vraie Fab Lab. À la charte, elle a adhéré à la charte du MIT, donc formellement, c'est une vraie Fab Lab. Non, le CCSI, pas la nôtre. La nôtre, c'est pas... On prend de l'esprit de la Fab Lab ce qu'on peut en faire dans notre écosystème. Et on est en échange avec le CCSI, qui est une Fab Lab, avec le tampon Fab Lab certifié. Mais bon, après on rentre dans des histoires dogmatiques. Je pense que l'esprit, dans notre écosystème, on essaye de le respecter. Je vous remercie.
Merci, Olivier.